bonsoir. Le pays va très mal. Début congolais, le 31 décembre 2017 approche. C'est le message de la SENCO lors de la clôture à Kinshasa ce week-end de la 54e assemblée plénière du comité permanent des évêques. Dans leur déclaration, les évêques appellent le peuple congolais à se mobiliser pour la tenue des élections avant fin décembre 2017. En réaction, la majorité présidentielle estime que la déclaration des évêques prône un patriotisme de lamentation et de pessimisme. Et comment analyser ce message? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 26 juin 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Abbé Donatien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gilbert Pessia de Goma, au Nord Kivu. La SENCO veut se blanchir et pourtant c'est bien elle qui a cautionné le glissement avec son fameux dialogue. Pascal de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les évêques ont eu le courage de dire tout haut ce que la plupart des Congolais disent tout bas. Dire que c'est la politique de lamentation et pessimisme, c'est tout simplement ignorer la souffrance du peuple et cracher sur la mémoire des personnes tuées chaque jour en RDC. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le pays va très mal, début congolais, le 31 décembre 2017 approche. Tel est le message de l'Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans leur déclaration de vendredi dernier, ici à Kinshasa, les évêques appellent le peuple congolais à se mobiliser pour la tenue des élections avant fin décembre 2017. Je vous propose de suivre un extrait de ces messages lus par l'abbé Donatien Cholet. Ces propos sont recueillis par Étienne Kalima.
Nous devons prendre en main notre destin commun. C'est le moment historique. Nous avons le devoir sacré de nous approprier les lois qui réglementent notre vie, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre, l'unique feuille de route solidement fondée sur la Constitution de la République, dont il faut exiger le respect et la mise en application intégrale par les signataires. La sortie pacifique de la crise actuelle exige la tenue des élections présidentielle, législative et provinciale avant décembre 2017, tel que le prévoit l'accord politique du 31 décembre 2016. Une minorité de concitoyens a décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. C'est inacceptable.
Abbé Donatien Cholet, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, en sigle. Nous venons de vous suivre dans cet extrait que la technique nous a diffusé le week-end dernier lors de la clôture de la 54e assemblée plénière du comité permanent des évêques. Vous avez appelé le peuple congolais à se mobiliser. L'intitulé de votre message, le pays va très mal, début congolais, le 31 décembre 2017 approche. La SENCO fait en réalité allusion à quoi lorsqu'elle utilise l'expression début congolais?
Les évêques, après avoir à maintes reprises invité les acteurs politiques à prendre au sérieux les vraies aspirations de la population, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés et cette fois-ci, ils ont décidé de se dresser à la population qui doit prendre son destin en main. Donc, debout congolais, c'est une invitation lancée en toute responsabilité. Et cette invitation est accompagnée aussi par une campagne de sensibilisation aux manifestations pacifiques par nos commissions justice et paix. Voilà la réponse.
Alors, Abbé Donatien Cholet, vous dites que nous devons prendre en main notre destin commun. En faisant quoi concrètement?
En se mobilisant, justement, il y a une campagne qui est en train de sensibilisation, en train de donner la population qui est structurée dans les différents groupements de la société civile peut bien s'organiser pour faire entendre sa voix qui n'est pas encore, pour faire accepter ses aspirations qui ne sont pas encore prises en compte. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Les évêques ne vont pas dans le détail de chemin, mais le peuple a bien compris.
C'est vous qui dites que le peuple a bien compris. Pourquoi vous ne pouvez pas expliciter? Parce que mobilisation peut être interprétée de plusieurs façons.
Mais justement, j'ai dit qu'il y a une campagne de sensibilisation à la base dans les 47 diocèses sur les manifestations pratiques, les manifestations pacifiques, j'allais dire. Et là, on est dans les détails. Mais dans ce message ici, il s'agit d'une orientation qui est donnée.
Le pays va très mal. Qu'est-ce qui ne marche pas, Abbé Donatien Cholet?
Ben, je crois que toute la première partie du message des évêques l'explicite, la situation socio-économique qui est catastrophique. Je crois que même c'est la majorité, même mon frère Atondou qui est là, s'il posait la question à sa tante ou à sa grand-mère, comment va le pays aujourd'hui, il ne dira pas autre chose que ce que les évêques ont dit. La situation sécuritaire, humanitaire, la situation des droits de l'homme, je crois que les évêques ont été assez précis et clairs là-dessus.
Alors, une minorité des concitoyens a décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. Vous faites allusion à qui?
Ben, aux acteurs politiques, parce que pour les évêques, il n'y a pas de doute qu'une des raisons principales de cette crise, c'est la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel et que la réponse se trouve dans l'accord du 31 décembre. Alors malheureusement, on privilégie les positionnements politiques des prétendues solutions comme pour reprendre l'expression des évêques eux-mêmes et les résultats sont là. La situation va de mal en pis. Et les évêques commencent par leur message par dire qu'ils sont mus par l'évangile et éclairés par la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est comme un pasteur soucieux de la souffrance de la population qui ne fait qu'accroître qu'ils ont pris cette position.
Le porte-parole de la majorité présidentielle estime que votre déclaration prône un patriotisme de lamentation et des pessimismes. Il estime qu'il s'agit d'une voie qui ne convient pas, d'autant plus qu'elle est dangereuse.
Non, écoutez, parler de pessimisme, je crois que s'il a bien lu le message des évêques, quelque part les évêques disent que face à ces tableaux sombres, la pire des choses qu'on doit éviter, c'est le découragement. Donc, les évêques invitent justement à ne céder ni à la peur ni au fatalisme. Donc, c'est un message qui suscite un espoir, mais un espoir qui ne peut être possible que si la population s'engage. Donc, il ne s'agit pas d'un pessimisme. Si les évêques étaient pessimistes, ils allaient dire à la population, il n'y a plus rien à faire, nos vies sont déjà prises en otage. Mais ils sont optimistes, ils croient à la maturité du peuple congolais, ils croient que le peuple congolais est capable de se faire comprendre, entendre finalement, en dictant, parce que c'est lui le souverain primaire.
Alors, il y a Jérémy Antoine Moudjanji qui nous écrit depuis Boma, dans la province du Congo central, qui vous pose plusieurs questions. La première est celle de savoir, en lançant ce message, la SENCO se reproche-t-elle de quelque chose vis-à-vis du peuple congolais ou c'est le plan B qui avait été promis?
Les évêques ne se reprochent rien dans la mesure où, dans ce message ici, ils reviennent encore au strict respect, à la stricte application de l'accord qui reste l'unique feuille de route pour sortir le pays de crise. Ce que les évêques ont fait en accompagnant les acteurs politiques jusqu'à la signature de l'accord qui a été bien accueilli par une large partie des Congolais, les évêques ne le regrettent pas. Les évêques sont plutôt désolés que l'on passe à côté de cette solution pour proposer des prétendues solutions dont les résultats sont là.
Pourquoi la SENCO souhaite toujours jouer le rôle de l'opposition? C'est toujours, selon Jérémy de Boma, jouer le rôle de l'opposition en appelant à la mobilisation. Pourtant, c'est elle qui jouait à la médiation, au dialogue. La SENCO sera-t-elle capable d'assumer ses responsabilités au cas où son appel à la mobilisation tournait au vinaigre?
D'abord, les évêques ont interpellé les acteurs politiques. Ils n'ont pas parlé du pouvoir et de l'opposition. C'est sûr que l'opposition aussi a sa partie. Le peuple est comme un peu abandonné à lui-même. Donc, les évêques sont mis par l'Évangile. L'Évangile est éclairé par la doctrine sociale de l'Église qui leur demande de se mettre du côté des pauvres, du côté de ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, le peuple congolais souffre sérieusement. Celui qui a posé la question de Roma, je ne sais pas si cette souffrance ne le touche pas. Et s'il est concerné, il doit être content que les évêques se penchent du côté des pauvres et non plutôt du côté des riches.
Merci, monsieur l'abbé Cholet. On vous garde encore dans cette émission. André Alain Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Vous estimez que ce message de la SENCO prend un patriotisme de lamentation et des pessimismes. Pourquoi?
Parce que de telles déclarations conduisent à une démission nationale et à une résignation fatidique au mépris de notre souveraineté. Le peuple, comme l'a dit M. l'abbé Cholet, n'est pas abandonné. Les institutions fonctionnent. Le processus électoral continue. Et chaque fois qu'il y a des problèmes...
Le pays va bien ?
Le pays ne va pas bien. Mais le problème n'est pas de s'arrêter là. Voilà ce que j'appelle un patriotisme de lamentation, et j'allais même dire plus que de pessimisme, c'est d'apocalypse, n'est-ce pas? Le pays ne va pas bien. Mais qui est responsable à l'état aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout état de cause, on peut dire que le pays ne va pas bien à cause des évêques qui ont échoué à accomplir leur mission, la mission que le président leur avait confiée, de mettre la classe politique ensemble et d'aboutir à un résultat consensuel. Les évêques eux-mêmes...
Donc ils sont responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui.
Les évêques eux-mêmes ont constaté leur échec, ont remis le rapport au président de la République en l'exhortant d'exercer son rôle compte tenu de son statut de garant de la nation pour le meilleur intérêt. Alors, aujourd'hui, le président prend ses responsabilités.
Mais ce ne sont pas les évêques qui gèrent le pays, quand même.
Ah, ce ne sont pas les évêques qui gèrent le pays. Et pourquoi s'expriment-ils donc?
Ils ont le droit de s'exprimer, comme tout Congolais.
Écoutez, ils ont le droit de s'exprimer, mais ils ne doivent pas entraver les efforts des dirigeants pour amener des solutions concrètes à des problèmes précis. Le processus électoral n'est pas abandonné. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 30 millions d'électeurs, d'enrôlés, sur les 40 attendus. Il faut aussi se référer à cela. Pourquoi je dis que c'est un message de pessimisme? Parce qu'on ne fait aucune allusion aux avancées. Aucune allusion. Vous savez, lorsqu'on remonte à la cité de l'Union africaine, nous étions avec l'Église catholique. Et à quelques heures de la clôture, Monsieur l'abbé Cholet, qui représentait, a quitté en nous disant « Eh bien, je vais tout faire pour ramener le rassemblement. » Il n'a pas ramené le rassemblement. Les évêques sont allés chez le président pour lui demander 3 jours pour ramener le rassemblement. En 3 jours, ils n'ont rien fait. Ils ont demandé une semaine, le président leur a accordé. Eh bien, après 3 mois, 4 mois, ils n'ont rien fait et ils ont remis le tablier. Et le président a pris ses responsabilités en tant que garant de la nation et en tenant compte des impératifs de son devoir.
Si je vous comprends bien, les évêques n'ont fourni aucun effort pour rassembler, mettre ensemble les points de vue des acteurs politiques.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Ils ont promis
au président une obligation de résultat. Le résultat n'est pas là. Mais par contre, dans ce message, il y a quand même... des liens ontologiques et logiques troublants entre le régime spécial que le rassemblement prenait et la menace du plan B qu'avaient brandi les évêques quand nous étions à la SENCO. Il y a un lien à la fois logique et ontologique entre le discours de M. Lumbi et le communiqué de la SENCO. On aurait pu croire que le communiqué de la CINCO est une version religieuse du communiqué de Lumbi. Alors, toutes ces analyses trouble l'opinion.
Mais au sein de la majorité présidentielle, il y a des acteurs politiques qui applaudissent, qui soutiennent ce message de la CENCO.
Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que le grand échec de la CENCO, c'est quoi? C'est de n'avoir pas maintenu une position équidistante à tout moment des négociations. Leur penchant pour le rassemblement était évident. Pour un petit exemple, lorsque la majorité présidentielle demandait une liste de 10 personnes pour présenter au président de la République, parmi lesquelles celui-ci choisira un premier ministre, il y a eu des tractations, le rassemblement maintenait un, et ce sont les évêques qui ont préconisé 3. Et la majorité a dit, bon, écoutez, 3. Et lorsqu'il a fallu s'assumer devant l'opinion et devant le rassemblement, les évêques ont gardé un silence troublant. Voilà des éléments qui nous poussent
CENCO joue le jeu de l'opposition.
Son penchant est normal. Et ce discours, ce communiqué, trouble davantage la communauté des églises. C'est comme si, vous voyez, depuis un certain temps, nous avons l'impression que le plus grand problème de la CINCO, ce sont les élections, et non la crise de foi qui sévit dans l'Église, et non le problème de mauvaise gouvernance qui sévit dans l'Église. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens congolais, nous avons quand même le droit aussi de connaître le problème de crise de foi et de gouvernance.
Merci,
au
monsieur
point qu'aujourd'hui, c'est plutôt Jeune Afrique qui nous en parle.
Merci, monsieur Atundu, professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez ce message des évêques?
La lecture que fait la CENCO sur la situation en RDC est bien celle que tous les autres Congolais et même étrangers font sur le pays. La CENCO a, il me semble, le courage, en tant que force sociale, d'élever sa voix. Et quand vous regardez dans le fond, le fait qu'ils décrivent sont des faits avérés. L'effondrement du système sécuritaire, alors que la sécurité est la raison d'être de l'État congolais. Les restrictions des libertés publiques, la dégénérescence de la situation économique, un déploiement non mesuré de la violence de l'État, des élections toujours promises mais jamais situées dans les temps. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes jamais proches des élections. Donc, vous avez là présenté un tableau d'une situation qui montre que la RDC est au bord du désastre. Et l'Église catholique, si vous regardez bien dans le temps, l'Église catholique, donc catholique post-indépendance, n'a jamais été une force sociale qui se range plus ou moins aveuglement derrière le régime en place. Et elle n'est pas non plus une force sociale qui garde le silence quand elle sent qu'un désastre approche. Donc le fait qu'elle s'exprime aujourd'hui, eh bien, était quelque chose d'attendu. Cependant, par rapport à la crise actuelle, l'approche de l'Église catholique mérite quand même d'être analysée. Vous regardez, l'Église catholique avait pensé que la solution à l'Église, donc à la crise, passait nécessairement par le dialogue. D'où le rôle joué par l'Église. D'abord, son rôle a oscillé entre sa participation au dialogue de Dem Kodjo et son retrait vespéral. Évidemment, la signification de ce retrait était que l'Église catholique n'a pas voulu, de mon point de vue, être associée à un accord qui était présenté comme une solution, mais qui, au fil du temps, devenait de plus en plus comme problème, surtout avec les violences du 19 septembre. Et, loin d'être une rupture, ce premier retrait est apparu comme une continuité car, plus tard, l'Église catholique va devenir une force de médiation. Une médiation entre les forces politiques. Et, devant l'opacité et les côtés quelque peu obscurs du jeu politique, le second retrait apparaît comme une rupture. Et quand vous lisez aujourd'hui Quand vous écoutez aujourd'hui le message de la CERCO, véritablement, on a l'impression que c'est la rupture. Et l'Église catholique ne revient pas dans ce jeu, dans le jeu politique vicieux. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi cette déclaration en ce moment? Il me semble qu'il y a une série de facteurs, un certain nombre de facteurs, qui ont poussé l'Église catholique à faire cette déclaration en ce moment. Le premier facteur, c'est l'enlisement du pays dans ce qui apparaît comme un chaos inévitable. Le deuxième facteur, c'est une sorte d'incertitude sur l'organisation des élections avant la fin de cette année. Et d'ailleurs, de plus en plus, maintenant, on entend un discours du genre, l'arrêt de l'enrôlement dans le Kassaï, des électeurs dans le Kassaï, ne pourra pas permettre que les élections se tiennent cette année. Donc, il y a même des slogans du genre, pas d'élection sans l'enrôlement au Kassaï. C'est-à-dire que cette affaire d'enrôlement au Kassaï va certainement jouer sur le calendrier électoral. Il y a un autre facteur, c'est, si vous voulez, l'assombrissement des perspectives politiques, économiques et sécuritaires. Vous avez également, et ça c'est un facteur très important, il me semble, c'est l'affaiblissement de l'opposition par la majorité, au travers du dialogue. Et vous savez tous qu'une bonne partie de cette opposition est aujourd'hui littéralement neutralisée et on constate aujourd'hui un réel immobilisme de l'opposition. Et devant cet immobilisme, la CENCO reprend la main. Et on assiste là à un retour de l'Église catholique sur le terrain, un terrain difficile de l'engagement politique. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce retour sur le terrain de l'engagement politique emprunte plutôt de nouvelles trajectoires. Hein, et je crois qu'une première brèche, c'est celle évoquée tout à l'heure par M. Labbé Chollet, celle de l'éveil de la conscience congolais. Et nous, on est quand même curieux de voir jusqu'où le rôle politique, le rôle actif de la CENCO va aller dans cette lutte pour la démocratie.
Merci professeur Félicien Kabamba. Donatien Cholet, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mweka.
Peter Maboudi, j'interviens à partir de la province du Kassai, territoire de Mweka à Domiongo. L'Église n'est pas égale à la politique. Les évêques doivent comprendre que si aujourd'hui le pays continue à être plongé dans cette crise, ils sont à la base de celle-ci. Les évêques connaissaient que les pays devraient toujours être mal quand ils avaient échoué à la mission des bons offices du deuxième dialogue sans pour autant avoir appliqué leur fameux plan B qui reste inconnu. Et après leur échec, ils avaient remis tout entre les mains du président étant garant de la nation. Vous appelez aujourd'hui à se mobiliser, c'est ça le plan B dont ils nous parlaient. Le temps n'est plus à nous distraire, étant donné que la CENI fait son travail, attendant impatiemment le processus d'enrôlement qui est en cours.
Monsieur l'abbé Donatien Cholet.
Je me pose la question si celui qui vient de parler maintenant est convaincu de ce qu'il dit ou il est poussé à le dire. Je pose la question parce que tout à l'heure, là, j'étais vraiment surpris et étonné d'entendre monsieur l'ambassadeur Atundu dire que les évêques ont échoué, étaient incapables. Je vous demanderai simplement de le faire écouter l'interview juste après la fin de la mission formelle de bons offices. Vous nous avez reçu au dialogue intercongolais. J'aimerais qu'il réécoute ce que lui-même a dit du travail des évêques. Et aujourd'hui, il dit tout à fait le contraire. Comment voulez-vous qu'on aille de l'avant quand la vérité change de couleur selon les convenances? Je pose la même question. On condamne les évêques pour avoir cherché à trouver la solution dans le dialogue. Mais ce n'est rien comprendre. On condamne les évêques parce qu'ils veulent aujourd'hui demander aux gens de tout faire pour que cet accord donc, qui est le produit du dialogue soit appliqué. C'est incompréhensible. Donc je ne comprends vraiment rien de telles interventions.
Alors, il y a aussi l'ingénieur Oscar qui dit ceci, j'interviens à propos de l'appel adressé aux Congolais par les évêques. Par les évêques CENCO, la question, le pays allait déjà mal depuis 2006, depuis 2016, raison pour laquelle ils avaient pour mission d'orienter l'ensemble de la population à travers les pourparlers du centre interdiocésain sur l'attitude à adopter face au danger. Mais échec, ils ont tiré en longueur les choses sans anticipation. Ils ont parlé du plan B sans l'appliquer. Aujourd'hui, ils reviennent à la case du départ, oubliant qu'ils ont joué aux sapeurs-pompiers le 19 décembre 2016, alors que le peuple était debout pour en finir avec les régimes. C'est un des aveux pour fuir la responsabilité. Ils doivent assumer.
Ben écoutez, c'est un point de vue, mais je regrette vraiment de tel raisonnement parce que le travail des évêques, c'était justement de mettre les uns les autres autour d'une table pour qu'ensemble ils trouvent une solution. Les évêques n'ont pas quitté la table sans rien proposer. Ils ont proposé des solutions. Que la majorité me dise pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté la proposition des évêques. Que l'opposition me dise pourquoi on n'a pas écouté la proposition des évêques. Les évêques ont été responsables jusqu'au bout. Comprenez une chose, que les évêques, la CENCO n'est pas un parti politique. Un parti politique a pour ambition de conquérir le pouvoir. Jamais vous verrez un évêque poser la candidature au niveau provincial, au niveau national. Les évêques ne s'engagent que pour le bien de la population. Même ceux qui me posent la question là doivent se sentir aimés, particulièrement par les évêques.
Alors, vous mobilisez la population pour la tenue des élections avant fin décembre 2017. Il y a, l'enrôlement a commencé, mais il y a la situation sécuritaire du Kasaï qui pose problème. L'enrôlement n'a pas encore commencé. Vous pensez qu'avec cette situation, c'est possible d'avoir les élections avant décembre 2017?
Bon, la mobilisation, c'est pas seulement par rapport aux élections, mais que l'accord soit mis. L'accord prévoit lui-même l'éventualité au cas où on se retrouvait dans le cas de figure d'un éventuel, disons, report. C'est l'appréciation unanime du gouvernement, un gouvernement crédible, du CENSA crédible et de la CENI. Mais si ce report est fait par les gens à qui la population n'a pas confiance, qui va prendre ça au sérieux? Donc tout le monde a intérêt à ce que l'accord soit scrupuleusement mise en pratique pour sortir de la crise.
Vous parlez de gouvernement crédible, celui qu'on a actuellement ne l'est pas.
Bon, je crois que les évêques se sont prononcés là-dessus que c'était une entorse à l'accord. C'est simplement ça que je voulais commenter.
Merci Abbé Donatien Choulier. On a la tour, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Isaac Bampori, ici de Bukavu, au sud Kivu. Il plaise aux communicateurs de la majorité présidentielle à cette émission de répondre aux préoccupations suivantes. 1. Quel patriotisme d'allégresse et d'optimisme prône l'AMP qui fustige ce qu'elle appelle patriotisme de lamentation et de pessimisme donné par la CENCO? 2. L'amour du prochain que l'AMP recommande aux évêques comme matière à prêcher. Signifie-t-il tolérance sans fin, y compris à l'égard des régimes qui cherchent à se maintenir à tout prix? Faut-il donc rester passif et ne jamais réclamer? 3. Les Kasaï que l'AMP brandit comme raison du retard des élections. Le pouvoir manque-t-il des moyens pour y trouver la solution? Ou alors a-t-il décidé d'en faire sa chasse gardée? Je vous remercie.
Monsieur Atundu.
Merci beaucoup. Je le remercie pour ces questions. Quand je parle, moi j'ai parlé du patriotisme, de lamentation et de pessimisme. Parce que se limiter à se lamenter, à critiquer, sans proposer des solutions, conduit à la démission et à la résignation, ce qui est fatal pour l'exercice de notre souveraineté, tant du point de vue intérieur que du point de vue extérieur. Nous ne prenons pas un patriotisme d'allégresse, nous prenons le taureau par les cornes. Aujourd'hui, nous nous engageons, nous œuvrons pour que le processus d'enrôlement aille jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous œuvrons pour que le processus électoral ne connaisse pas d'entrave. La promptitude de la réaction au Kasaï montre que non seulement la sécurité de ces populations sont au centre des intérêts du pouvoir, mais aussi que les élections, on tient à ce que les élections s'y déroulent également. Mais n'oublions pas la réalité des choses. La CENI a connu des cas de traumatisme. Il y a eu des personnels de la CENI assassinés atrocement, etc. Mais il faut les sécuriser. Ça, ce sont des éléments objectifs.
Mais le prof l'a dit tout à l'heure, depuis un certain temps, le slogan c'est sans les élections...
Qui le dit? En tout cas, nous de la majorité, nous sommes engagés.
Pas d'élections sans les Kassai.
Les actes que nous posons, ce sont des actes des gens qui croient en la tenue des élections. Le Kassai, la situation du Kassai est une situation de fait. Aujourd'hui, la CENI ne peut pas enrôler. Doit-on nier cela? Si la CENI n'enrôle pas, quelles pourraient en être les conséquences? Réfléchir librement pour le
c'est
professeur,
ça devient... C'est difficile au gouvernement de trouver une solution pour cette province.
Mais le gouvernement est en train de trouver une solution. Pas plus tard que hier, le procureur général de la République et l'auditeur général viennent du Kassai. Le problème fondamental des Kamuna Sapo est résolu. Maintenant, ce sont les problèmes de terrorisme de ceux qui prétendent être des Kamuna Sapo. Alors, troisièmement...
Notre préoccupation l'auditeur.
Oui, c'est ça, je suis en train d'y aller. Ne jamais réclamer, non. La Constitution prévoit des voies. Il demande la liberté d'expression. Lorsque quelque chose ne va pas, on le dit. Et on le dit d'après ce que la Constitution prévoit, pour éviter des dérapages, des destructions qui pourraient nous retarder.
Mais c'est ça que la CENCO a fait. Pardon? Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire, il faut le dénoncer. La situation socio-économique catastrophique, la situation de droits de l'homme, pareil.
Un auditeur a dit, la CENCO a fait montre de courage. Non. Dire ce que tout le monde dit sans gants. Ce que vous me dites là, vous n'êtes pas de la CENCO. Ça, on peut l'écouter partout, on peut l'entendre dans les débats. Et donc, c'est pas faire montre d'un courage particulier. C'est faire montre d'un tropisme politique perçu déjà depuis la cité de l'Union africaine. Bon, le Kassai brandit comme prétexte. Non, ce sont des réalités. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a insécurité au Kassai et que c'est une zone opérationnelle pour permettre aux gens, et on ne peut pas nier aujourd'hui qu'on a tué des gens de la CENI et que la CENI est en droit de demander un peu plus de garantie. Donc, que l'auditeur, je le remercie pour ces trois questions, mais qu'il sache que le pays est tenu et que gérer un pays, diriger un pays, ce n'est pas un travail de tout repos.
Merci André Latundu, professeur. On a professeur Félicien Kabamba. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient d'Elikasi.
Delphine Mukalaka Mwanga d'Elikasi dans les Hauts-Katanga. Les propos de la CENCO ne sont pas justifiables. Elle veut juste se faire montrer à la face du monde qu'elle n'est pas concernée après avoir constaté l'échec de l'accord. À mon avis, la CENCO veut juste sur ses responsabilités de médiation parce qu'elle savait très bien qu'en décembre, il n'y aurait pas élection.
Professeur Félicien.
non, je ne partage pas son avis. Je crois que la CENCO a joué un rôle historique. Un rôle d'abord comme acteur, comme participant au dialogue de la cité de l'OIA et ensuite comme médiateur. Et il faut dire que quand on fait la médiation, la réussite de l'accord ne dépend pas toujours du médiateur. Il dépend, donc elle dépend également du parti aux négociations. Et il m'a semblé que pour les raisons qui lui sont propres, la CENCO a estimé qu'il n'y avait pas une bonne foi de la part des partis qui négociaient et qu'elle devait tirer les leçons et donc elle s'est retirée. Il me semble que là, la décision prise par la CENCO était une décision qui me semble, de mon point de vue, assez réfléchie. Non. Est-ce que cette décision était du goût de la majorité, était du goût de l'opposition? Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a l'enlisement, il y a une tendance au chaos, un chaos généralisé, et tout le pays semble, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais tout le pays se dirige tout droit vers une incertitude, et la déclaration de la CENCO met le doigt là-dedans. Mais ce qu'il faut ici relever aussi, c'est que en fait, sur ce qui se passe au Kassai, il y a plusieurs versions. Il y a la version du gouvernement, il y a la version des organisations non gouvernementales, il y a la version des Nations Unies, et donc on est là devant une situation sur laquelle tous nous nous demandons eh bien, comment la situation va évoluer et est-ce que les élections vont être organisées cette année? Tant il est vrai qu'on commence à voir, si vous voulez, une reprise par une certaine classe politique, évidemment, de l'argument Kassai comme étant un argument de base pour repousser les élections. C'est évidemment cette inquiétude qui apparaît également dans la déclaration de la CECO.
Il y a cet auditeur qui nous écrit de Strasbourg en France. Il s'appelle Stanislas Longonga. Il faut un peu d'humilité de la part de la majorité au pouvoir pour écouter les cris d'alarme des évêques. Ils n'ont dit que c'est que le Congolais non fanatique et non flatteur pense que la majorité évite de verser dans le radicalisme absolu car tel semble le cas aujourd'hui. Le Congo au bord de l'abîme, qu'elle n'abuse pas de la confiance et de la patience de la population. Le Congo est notre maison commune. Prenons-en soin en allant au-delà des intérêts partisans et égoïstes.
Professeur. Oui, mais je crois que même André Alain Atundu a reconnu que la situation du pays n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Dire qu'elle n'est pas bonne ne veut rien dire. Il faut la caractériser. Et c'est ce que tente de faire aujourd'hui la CENCO. La CENCO donne un certain nombre de détails sur ce qui ne va pas. Ça ne va pas, oui, mais ça ne va pas sur quel plan? Pratiquement, sur la plupart des plans, notre pays est complètement malade. Et donc, il faut, à un moment donné, que s'élèvent les dons chrétiens congolais et qu'ils disent, voilà, ce qui ne marche pas. Il me semble bien que si aujourd'hui, la CECO le fait, il le fait en tant que force sociale. Et le fait que cette force sociale soit l'Église catholique, eh bien, quand elle parle, et je crois que tout le monde s'agite, c'est ainsi que certaines forces politiques, même celles qui sont aujourd'hui au gouvernement, ont pu, évidemment, se prononcer par rapport à la déclaration de la CENCO. Il me semble bien que le fait que la CENCO ait pris son courage pour faire cette déclaration pourra quand même faire réfléchir certains Congolais, même ceux qui sont au pouvoir.
Abbé Donatien Cholet, selon toujours le porte-parole de la majorité du message des évêques, on devrait attendre des messages de haute portée morale pour que les valeurs du christianisme comme l'amour du prochain et de la patrie intègrent la vie politique nationale et manquent à certains acteurs. C'est un conseil qu'il vous donne, au fait.
Eh bien, je crois que pour son information et pour l'information des Congolais qui ne le savent pas, les évêques se sont réunis pendant 5 jours, ce n'était pas seulement pour parler de la situation politique. Il y a, par exemple, ils ont adopté un document qui va sortir dans le prochain mois, le livret catéchétique de la famille chrétienne, le guide pour l'apostolat de laïque, l'héritier pour la messe des idoles Bankanza. Donc, ils ont fait beaucoup de choses par rapport, ça ce n'est qu'un des points traités. Donc, c'est pas qu'ils ont démissionné à l'essentiel. C'était un chrétien catholique, M. Atundu. Donc, je l'invite de revenir chez moi dans 3 mois. Il aura une nouvelle publication, livret catéchétique de la famille chrétienne.
Alors, jusqu'où va aller cet appel de la CENCO?
Eh bien, écoutez, jusqu'où la CENCO s'est engagée, les évêques se sont engagés à éclairer la population, à leur indiquer le chemin pour amener les politiciens à les sortir de cette crise, eh bien, le peuple reste le souverain primaire, celui qui a tout le pouvoir. Si le peuple écoute la voix des évêques qui les aiderait à aller de l'avant, tant mieux. Mais s'ils ont dit, ok, ça nous convient, ce que les politiciens nous proposent maintenant, mais ils sont libres. Au moins, eux, à leur conscience de pasteurs, ils seront tranquilles. Ils ont fait l'essentiel. Et même Jésus a dit à ses disciples, si vous allez quelque part vous prêcher, on vous écoute pas, ben, vous secouez la poussière du sol. Bon, j'espère qu'on n'arrivera pas là-bas, mais au moins, ils font leur travail en tant que pasteur, rien que comme pasteur.
Et vous allez sensibiliser comme ça jusqu'en décembre?
Même après décembre, parce que le peuple congolais a besoin d'une grande éducation, une sérieuse éducation civique, dans la mesure du possible. Dans la mesure de ses moyens, l'Église continuera à éclairer la population pour son propre bien.
André Alain Atundu, André Boto depuis le Kassai central, dit ceci: à mon humble avis, il est temps pour la MP de revenir à la raison et de ne pas confondre 2017 à 2016. Ne dit-on pas qu'on peut tromper une partie des gens pour un temps, mais À jamais, on ne peut tromper tous les gens tout le temps. Les évêques de la SEMCO ont parfaitement raison, car ils ne disent que tout haut ce que la majorité des Congolais disent tout bas, et à défaut de quoi la MP sera surprise.
Ce sont des déclarations de circonstances. Je viens de le dire à peine, que ce que les évêques ont dit tout haut, c'est que pensent tout haut tous les Congolais, et qu'on entend dans tous les débats politiques, qu'on lit dans tous les journaux, qu'on entend dans toutes les critiques. Et donc, c'est pas faire montre d'une lucidité particulière ou d'un courage singulier. Non.
Et cet auditeur de France qui dit que l'AMP doit éviter de verser dans le radicalisme absolu.
Non, c'est pas nous qui faisons le radicalisme. Et non. C'est pas nous qui faisons le radicalisme. Bon, revenons à l'essentiel. Pour nous, la déclaration de la SEMCO est un faux fuyant pour saboter l'enrôlement et les élections afin de créer les conditions d'un chaos général avec comme finalité l'installation d'un plan B selon la SEMCO ou d'un régime d'exception selon le Rassemblement. Il y a quand même une synergie étonnante. Pourquoi ne pas faire allusion aux avancées de la CENI dans le processus d'enrôlement? Pourquoi ne pas faire allusion aux avancées obtenues par le président de la République depuis que les évêques ont remis le rapport? Pourquoi toujours ce tropisme pessimiste? Voilà la question. Et c'est ce qui déroute les Congolais. Des bouts Congolais, dans les circonstances, en tout état de cause. Mais c'est un appel au soulèvement. Le peuple n'est pas abandonné. Les structures fonctionnent. Des bouts Congolais, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Ça veut dire il faut
l'abbé l'a expliqué, ce n'est pas un appel au soulèvement, plutôt un éveil de la conscience.
C'est un appel au soulèvement, c'est comme
ça
qu'on l'entend.
En conclusion, monsieur Antundu, votre conclusion?
Mais en conclusion, c'est que le communiqué de Zavec, par sa coïncidence synergétique avec le communiqué de G7 est troublant. Aujourd'hui,
merci.
N'est-ce pas, les évêques, on entend les gens dire, ils ont laissé tomber le voile. Maintenant, on sait de quel côté ils sont.
Merci,
ça,
monsieur,
c'est dommage.
Atundu, merci, monsieur Atundu. Professeur, votre conclusion, un faux fuyant, vous pensez aussi?
Moi, je dirais que le gouvernement doit plutôt donner l'impression aux Congolais qu'il s'occupe de, qu'il gère le pays. C'est vrai, moi, je vois venir la SEMCO. La SEMCO, de mon point de vue, jouera un rôle de plus en plus actif dans la conquête des libertés. Le fait que l'opposition soit complètement affaiblie va certainement donner une passerelle à la SEMCO et à l'Église catholique de manière générale de reprendre le flambeau de liberté, le flambeau de conquête de liberté. Et donc, la solution proposée par l'Église catholique est aujourd'hui le retour à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais cet accord est un accord piège. Il faut dire qu'on a parlé de l'accord, ça fait plusieurs mois. Apparemment, ça n'a pas marché. Il faut donc essayer de regarder l'avenir autrement.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Abbé Donatien Chollet, votre conclusion?
Eh bien, la SEMCO n'a aucun agenda avec le Rassemblement. Le Rassemblement aussi, ça n'a pas de responsabilité dans cette situation. Mais la SEMCO veut aider, éclairer la conscience des Congolais pour qu'ils se libèrent de esclavage entre guillemets politique de tout bord, parce que c'est pas normal. Nous sommes un pays respectable qui doit être respecté. J'aurais bien voulu que depuis décembre la situation évolue dans le bon.
Merci, monsieur l'abbé Cholet, sur la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de l'abbé.